Deutsche Welle, Économie et Développement.
Zemidjan, vous savez ce que ça veut dire ? Amène-moi vite en fond. C'est comme cela que l'on décrit le phénomène des taxis-motos au Togo. À Lomé, la capitale, ils sont des milliers à sillonner les rues. Leurs conditions de travail sont difficiles, vous les entendrez. Dans ce numéro, on parlera aussi des conséquences de la baisse du cours du pétrole en Angola. Les prix flambent pour les biens de première nécessité et le secteur de la santé est mis à mal. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, Claire-Marie Costman au micro. Bienvenue à toutes et à tous. La pollution, le bruit, les dangers de la circulation, le quotidien d'un chauffeur de taxi-moto est loin d'être facile. Au Togo, ils sont des dizaines de milliers à exercer cette activité, mal rémunérée selon eux. Pourtant, ils apportent beaucoup à la société togolaise. Écoutez le reportage de notre correspondant Noël Tadénion à Lomé.
Ils sont des milliers de taxis-motos à sillonner les artères de la capitale togolaise pour assurer le transport des passagers. Ici, on les appelle Zemidjan. Ce mode de transport est apparu dans les années 90 au Togo. Il a connu une grande évolution avec l'arrivée sur le marché de motos de fabrication chinoise. Cette activité de taxi-moto regroupe des personnes venues d'horizons divers. Des diplômés sans emploi, des travailleurs voulant joindre les deux bouts ou des personnes issues de l'exode rural sans débouché. François Komlavi Agbo, coordonnateur du collectif des organisations syndicales des taxis-motos du Togo.
Il y en a plein. J'ai rencontré la dernière fois quelqu'un qui m'a dit qu'il a eu sa maîtrise en 1999. Ce qui veut dire que ça fait 15 ans qu'il traîne dans le secteur. Donc on ne peut pas dire que c'est un secteur qui ne renferme que des voyous ou bien des gens qui ont raté leur scolarité. Même moi, j'ai vu un médecin exercer cette activité. Donc, ce qui veut dire que c'est une activité qui rapporte si on s'y donne. Je l'ai exercé pendant des années. Si même aujourd'hui, je ne le fais pas, j'ai gagné gros à travers l'exercice de cette activité. Je ne me plains pas.
Il faut quand même reconnaître que beaucoup de conducteurs de taxi-moto vivent dans des conditions misérables et leur souhait est simplement de voir leurs conditions de vie et de travail s'améliorer, notamment par l'augmentation de leurs rétributions qui tournent souvent autour de 2000 francs CFA et par des facilités pour l'accès aux services d'assurance maladie. Au-delà des services qu'ils rendent à leurs concitoyens, les conducteurs de taxi-moto ignorent pour la plupart l'apport de leur activité à l'économie nationale.
En ce qui concerne le travail des taxis-moto dans l'économie, ça a diminué seulement que le vol au pays. Actuellement, là où je suis là, j'ai appris mon métier. Si actuellement il n'y a pas les Zemidjan, quel travail je vais faire pour nourrir ma famille? Donc je peux dire que c'est ça qui nous sauve au pays, c'est ça. C'est les Zemidjan qui nous sauve.
Ils reconnaissent tous qu'ils paient des taxes et des impôts, mais s'interrogent sur ce qu'on en fait.
Le taxe là que nous avons payé même, on ne sait pas ce qu'on fait, l'argent là, on ne savait pas ce qu'on fait avec tout ça là. On dit que bon, cet argent là qu'on fait pour goudronner, pour faire le chemin, tout ça là, mais normalement le travail qu'il va faire, nous ne voyons pas que cet argent là fait ce travail là.
Les taxes et impôts servent à l'économie nationale, lui répond François Komlavi Agbo, coordonnateur du collectif des organisations syndicales des taxis-motos du Togo. Selon lui, l'activité des taxis-motos occupe une place importante dans l'économie nationale togolaise.
Les taxis-motos participent à plus de 40 milliards par an. C'est des chiffres qui datent de 2012. L'impact des taxis-motos se fait sentir au niveau des conducteurs, au niveau des propriétaires, au niveau des réparateurs des engins, des compagnies d'essence, des mairies, au niveau même de l'État en ce qui concerne le paiement des impôts, au niveau des pièces détachées, au niveau des assurances. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a lieu de penser que les taxis-moto constituent un maillon non négligeable dont il faut tenir compte dans la programmation économique.
Kossi Dabla, conducteur de taxi-moto, regrette que l'État encaisse 40 milliards de francs CFA par an alors que les conducteurs de Zemidjan ne tirent aucun profit de leur travail. Ils gagnent par trajet entre 200 et 1000 francs CFA selon la distance. Les taxis-motos doivent aussi s'occuper de l'entretien de leur engin et payer l'essence.
Ce travail, c'est juste pour se nourrir. C'est le gouvernement seul qui tire profit de notre travail. Ce sont eux qui vendent les motos, qui perçoivent les impôts. ils sont les seuls à en tirer les bénéfices. Nous faisons le travail, nous ne tirons aucun bénéfice.
François Komlaviagbo tente de le rassurer avec des chiffres révélateurs en francs CFA.
Pour un conducteur de taxi moto, il gagne minimum 800 000 par an. Mais si nous prenons le cas de Lomé, où nous avions à peu près 50 quelques mille conducteurs, nous pouvions dire que les conducteurs gagnent au moins 46 milliards. Pour les propriétaires de motos, c'est ceux-là qui louent les motos aux conducteurs et qui demandent à être remboursés à raison de 2 000 francs par jour. Donc ça fait 34 milliards.
Si les conditions de travail restent difficiles pour les taximotos, ils sont de plus en plus nombreux à exercer ce travail. Environ 95 000 taximotos ont été recensés en 2002 sur l'ensemble du territoire togolais par le collectif des organisations syndicales des taximotos. Ils étaient 241 000 en 2011, dont 57 000 à Lomé, la capitale. Noël Tadegno à Lomé pour la Deutsche Welle.
Et chaque semaine, vous pouvez écouter le reportage « Économie et développement en avant-première dans l'Afrique qui bouge ». C'est dans la matinale du mardi sur la Deutsche Welle à partir de 7h19 en temps universel. L'immigration est un sujet dont on parle beaucoup en Allemagne, vous l'avez sans doute déjà entendu sur notre antenne. Eh bien, les Allemands sont aussi beaucoup à quitter leur pays vers d'autres horizons, en particulier les jeunes et les diplômés. Ils sont plus nombreux à quitter chaque année l'Allemagne qu'à y revenir, selon une étude réalisée par le Conseil d'experts des fondations allemandes pour l'intégration et les migrations. Entre 2009 et 2013, 710 000 Allemands ont quitté leur pays et seulement 580 000 ont choisi de rentrer. Le pays est connu pour son taux de natalité très bas. Il craint une pénurie de main-d'œuvre dans les prochaines années. Mais l'an dernier, l'Allemagne n'a jamais accueilli autant d'étrangers, ce qui permet de compenser le faible nombre de bébés. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Économie et Développement. La chute du prix du pétrole continue d'avoir de lourdes conséquences pour les pays producteurs et surtout pour leurs habitants. Depuis le mois de juin 2014, le baril a perdu la moitié de sa valeur. Les économies dans le monde ralentissent, la demande en pétrole est moins forte et pourtant les pays producteurs continuent de vouloir extraire de nombreux barils de brut. Russie, Nigeria, Venezuela, beaucoup de pays font face à cette crise. En Algérie, il a été décidé un gel du recrutement des fonctionnaires. Au Gabon, où 60% des recettes de l'État vient de l'or noir, la colère monte. En Angola aussi, les effets se font sentir, notamment dans le secteur pourtant vital de la santé. Rosa Cirillo a vu sa situation financière se dégrader. Son commerce de médicaments et de matériel médical pour hôpitaux s'est effondré. Elle ne peut plus importer de médicaments pourtant essentiels. Les transferts d'argent vers l'étranger pour payer les entreprises pharmaceutiques sont rares, voire impossibles, en cause le manque de devises liées à la crise du pétrole.
Si ça continue, je vais devoir fermer mon magasin. Les Angolais ont un besoin urgent de médicaments de l'étranger. Nous ne les fabriquons pas ici. Ils viennent tous de l'étranger, d'Allemagne, du Portugal, de Pologne, des États-Unis ou du Brésil. Et si les exportateurs ne sont pas payés, nous allons, ici, en Angola, nous retrouver à court d'argent.
Le docteur Louis Philippe travaille dans une clinique qui reçoit jusqu'à 90 patients par jour. Lui aussi voit de graves répercussions sur la santé des Angolais.
Je compare la situation des soins de santé en Angola avec un cancer en phase terminale. Les difficultés concernent principalement les pauvres. Les riches, eux, peuvent facilement prendre l'avion et se faire soigner à l'étranger, en Namibie, en Afrique du Sud ou au Portugal.
Le gouvernement consacre moins de 3% du produit intérieur brut au secteur de la santé. L'espérance de vie n'y est que de 51 ans et la mortalité infantile reste importante. Alors de nouvelles coupes dans le budget de la santé seraient dramatiques. Depuis la fin de la guerre civile en 2002 en Angola, l'accent a été mis sur le pétrole pour aider le pays à se relever. Les autres secteurs comme l'agriculture ou la pêche ont été délaissés. Du coup, le pays est très dépendant de sa production d'or noir. Il produit 1 700 000 barils de pétrole par jour, un peu moins que le Nigeria, le premier producteur africain. Et paradoxalement, l'Angola ne dispose que d'une seule raffinerie pour transformer le brut en essence. 80% du carburant utilisé dans le pays est donc importé, par exemple du Gabon. Et comme le brut rapporte moitié moins, le gouvernement a augmenté le prix à la pompe, une augmentation d'environ 20%, et il a réduit les subventions pour le carburant. Elles coûtaient plus de 3 millions de dollars par an. Alors ce sont les Angolais qui payent le prix de cette crise. Tout est plus cher, que ce soit pour se déplacer ou pour manger, souligne le docteur Luis Philippe.
La situation est chaotique. Le prix du pain a doublé. Même chose pour d'autres aliments de base comme les légumes et les fruits. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que la qualité des produits baisse rapidement. Dans les rayons, on voit de la nourriture pourrie. Les aliments pour bébés ont presque tous disparu. L'économie est quasiment à l'arrêt. L'activité économique du pays
est complètement parée. Depuis plusieurs années, Luanda, la capitale, est considérée comme une des villes les plus chères du monde. Alors si les élites arrivent à s'en sortir, de nombreux Angolais n'y arrivent plus. Pour le militant des droits de l'homme, Rafael Marques, le pays risque de s'enfoncer dans une crise sociale.
Si les prévisions internationales sur le prix du pétrole se réalisent et que le prix du pétrole reste bas pendant longtemps, l'Angola va connaître de grands bouleversements sociaux.
Merci à Antonio Arede Casquez pour les interviews. C'est la fin de ce numéro. Si vous voulez réentendre ce magazine Économie et Développement, rendez-vous sur notre site www.de/français, rubrique médiathèque. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir et à la semaine prochaine.